France Inter,
franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui 21 août 1968, il y a 40 ans jour pour jour, en envahissant la Tchécoslovaquie, les Soviétiques mettaient fin au printemps de Prague. La peur disparaissait, les tabous étaient levés et l'esprit critique s'épanouissait. Václav Havel. ans d'histoire. Lorsque le 5 janvier 1968, il a pris la tête du parti communiste tchécoslovaque, rien ne prédestinait Alexandre Dubček à devenir le symbole d'un des plus grands bouleversements qu'ait connu le bloc soviétique pendant la guerre froide. Cet apparatchik discipliné qui avait vécu 13 ans à Moscou avait fait toute sa carrière dans l'appareil du parti et personne n'imaginait qu'avec lui, la Tchécoslovaquie allait retrouver la liberté qu'elle avait perdue 20 ans plus tôt quand l'URSS lui avait imposé un des régimes les plus durs du bloc soviétique. En libérant les prisonniers politiques, en supprimant la censure, en rétablissant la liberté d'expression, Dubček réalisait une révolution sans précédent dans l'histoire du communisme. La peur disparaissait, les tabous étaient levés et l'esprit critique s'épanouissait, s'enthousiasmait le jeune Václav Havel, tandis qu'en URSS, on était bien décidé à mettre fin à cette expérience qui risquait de contaminer tous les régimes communistes d'Europe de l'Est. Elle n'aura duré que 7 mois, jusqu'au 21 août 1968. Ce jour-là, à 1h48 du matin, sur ordre de Moscou, 400 000 hommes, 600 chars et 800 avions de 5 pays du pacte de Varsovie franchissaient les frontières de la Tchécoslovaquie pour mettre fin à ce qu'on avait appelé le printemps de Prague. France Inter, Michel Forgite, le 21 août 1968.
Tout de suite, un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague. Les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
Ici Prague. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. C'était une proclamation officielle du gouvernement tchécoslovaque. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langues étrangères. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront.
Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au Centre de recherche et d'études internationales, professeur également à Sciences Po et spécialiste de l'Europe de l'Est, qui a exactement 40 ans, a connu ce qu'on appelait le printemps de Prague. Alors une expérience interrompue, on vient de l'entendre, en août 68 par une invasion soviétique. Et en quoi ce printemps de Prague était-il dangereux pour l'URSS alors que ces réformes, cette libéralisation du régime tchécoslovaque avait été initiée par le parti communiste tchécoslovaque lui-même, Jacques Rupnik?
Oui, c'est effectivement un paradoxe de 68 de penser qu'une réforme du système socialiste, au nom d'idées socialistes, on parlait de socialisme à visage humain, qu'elle a été étouffée, écrasée par les tanks d'un pays qui se réclamait lui aussi du socialisme. Simplement, ce n'était pas le même socialisme. Pour les communistes soviétiques, pour Brejnev et son équipe, socialisme voulait dire pouvoir du parti communiste. Sécurité veut dire contrôle de la société, des médias, etc. Et que voit-il à Prague? Il voit un socialisme, certes à visage humain, mais qui abolit la censure et qui veut, en quelque sorte, séparer le parti et de l'État. En France, on parle souvent de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, en 68, à Prague, c'était la séparation du parti et de l'État. Et ça, c'était intolérable pour Moscou.
Justement, vous parlez de la France. C'est exactement au même moment que se produisent les événements de mai 68 en France. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux?
Il y a un rapport, disons, dans la simultanéité, c'est le printemps. Il y a les deux printemps de Prague et de Paris. Il y a certaines similitudes générationnelles. C'est les jeunes, les étudiants qui sont aux avant-postes dans ce mouvement. Ils ont la même tenue, les mêmes blue jeans, les cheveux longs, ils écoutent la même musique. Ça, c'est le phénomène générationnel. Et les deux invoquent un changement dans le statu quo européen, dans le conteste de pouvoir au nom d'une certaine idée alternative du socialisme. Ça, c'est les apparences, disons les similitudes apparentes. Derrière, il y a quand même des différences fondamentales. Le mai 68 français méprisait la société de consommation, alors qu'à Prague, quand on sort de 20 années de pénurie stalinienne, on ne méprise pas la société de consommation après avoir fait la queue. À Paris, on méprisait les libertés dites bourgeoises et l'élection était présentée comme un piège. Alors qu'à Prague, retrouver les libertés dites bourgeoises, la liberté d'expression, les libertés d'association, les droits civiques, étaient au contraire la conquête première. Donc, divergence importante sur le fond.
On retrouve une liberté, vous parlez de Prague, là en parlant de Tchécoslovaquie, que les Tchèques étaient même pratiquement les seuls à avoir connu dans le passé. De tous les pays de l'Est, c'est le seul à avoir connu, à avoir fait l'expérience de la démocratie. Jacques Kopnik, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils s'insurgent contre le régime de fer que les soviétiques ont mis en place en 1948, après d'ailleurs avoir été accueillis en libérateur en 1945.
C'est vrai que la Tchécoslovaquie d'avant-guerre avait été, dans les années 30, la seule démocratie à l'est de l'Allemagne. Et en ce sens-là, la tradition démocratique y était plus ancrée, plus forte. Et donc le communisme a dû, en quelque sorte, mater et réprimer cette tradition démocratique. D'un autre côté, c'était aussi le pays qui avait le parti communiste le plus fort. Au lendemain de la guerre, comme en France, le Parti communiste tchécoslovaque était le parti le plus puissant dans des élections libres en 1946. Donc là, c'est pas seulement un parti communiste, un groupuscule qui aurait pris le pouvoir parce que les tanks russes sont arrivés. Donc il y avait ce rapport particulier d'une société démocratique, mais qui avait connu un parti communiste puissant. Et paradoxalement, c'est ce parti communiste puissant qui, après 20 années de pouvoir, commence à dire qu'il faut réconcilier ces traditions démocratiques avec la structure communiste. Et il commence donc à changer. Dubček a été, à certains égards, malgré lui, en dépit de peut-être de ce qu'il avait lui-même prévu, le porteur de cette tentative inespérée de réconciliation du socialisme et de la démocratie.
En tout cas, un parti communiste puissant qui confisque et monopolise même le pouvoir à partir de 1948 avec le soutien de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là qu'on trouve à sa tête Clément Gottwald jusqu'en 1953, puis Antonin Novotny jusqu'au 5 janvier 1968. France Inter, Pierre Charpentier.
Intersoir. Changement à la tête du Parti communiste tchécoslovaque, M. Novotny a démissionné de son poste de premier secrétaire.
Et il est remplacé par M. Alexandre Dubček, qui était auparavant premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Slovaquie.
Ce qui indique qu'une évolution profonde est en train de se produire en Europe de l'Est. Ce que nous confirme notre correspondant Victor Vraman.
Il est probable que le nouveau premier secrétaire de 46 ans, qui est M. Dubček, va moins respectueux de l'orthodoxie que le vétéran Novotny. Finalement, il est tout à fait probable que les Tchèques maintiendront leur alliance privilégiée avec l'URSS, mais avec une souplesse et un esprit pratique dont Moscou devra tenir compte.
En réalité, Jacques Rupnik, en janvier 68, au moment où on entend comme ça Victor Vraman annoncer l'arrivée de Dubček à la tête du Parti communiste, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est assez peu connu, surtout en Occident. Et il est connu surtout pour avoir été un apparatchik, un membre du Parti communiste. Il est même, dans sa jeunesse, entre les deux guerres, il a même vécu 13 ans à Moscou.
Oui, le Dubček n'était pas connu des Tchécoslovaques non plus. Il était connu comme un responsable communiste slovaque, et les communistes slovaques s'étaient trouvés en conflit avec Novotny. Et donc ça, c'était, disons, l'origine de l'ascension vers le pouvoir d'Alexandre Dubček. C'était le Parti communiste slovaque. Or, ce qui se passe en 67, c'est une convergence entre des réformateurs économiques, dont Otachik était le plus connu, des intellectuels qui commencent à exiger plus de liberté d'expression, etc. Et puis, troisièmement, les Slovaques qui réclament un régime moins centralisateur et moins jacobin, et Dubček est le porte-parole de cette aspiration des communistes slovaques. Et la convergence de ces trois forces a provoqué une crise au sein du parti pendant l'année 67 qui a culminé en décembre par une crise politique ouverte, une remise en cause du pouvoir de Novotny. Et c'est là qu'est le paradoxe. Dubček, à cause de son passé en Union soviétique, à cause du fait qu'il n'était pas connu pour des opinions particulièrement libérales, paraissait aux Russes comme quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Et c'est là peut-être qu'était la méprise.
Et d'ailleurs, ils vont le croire pendant un certain temps. Le 30 janvier, par exemple, Dubček, annonçant donc devenu premier secrétaire du Parti communiste, c'est-à-dire quand même le pouvoir le plus important dans les pays communistes à l'époque, dit « Nous ne modifierons notre ligne générale ni à l'intérieur ni à l'extérieur ». Autrement dit, il est très prudent. Il n'a pas envie d'aller très loin. Il se contente de réformes d'abord en ce qui concerne la liberté d'expression. Mais il n'a pas envie, essentiellement, vous le rappelez Jakobnik, que la Tchécoslovaquie telle qu'il veut la voir évoluer, subisse le sort de la Hongrie 12 ans plus tôt. La Hongrie dont la révolte contre Moscou avait entraîné une répression féroce, brutale, sanglante à Budapest.
Oui, 68, le printemps de Prague, c'est l'anti-56. 56, vous avez une insurrection qui est réprimée, vous avez une révolution antitotalitaire qui est réprimée dans le sang, et la démarche de Dubček et des communistes tchécoslovaques, c'est nous devons à tout prix montrer, rassurer Moscou sur nos intentions. Nous voulons réformer le socialisme, pas le détruire. Nous voulons rester des alliés fidèles, surtout pas menacer l'équilibre des forces en Europe. Donc, toute la première phase consiste à essayer de rassurer. Mais en même temps, que fait-on ? On abolit la censure. On rétablit les libertés publiques, la liberté d'association. Et que se passe-t-il ? Ben, dès que vous avez libéré la censure, toutes les choses qui ont été étouffées pendant 20 ans remontent à la surface, y compris la question des procès truqués des années 50, tous les crimes commis au nom des idéaux socialistes à l'époque de Staline, mais qui se sont prolongés en Tchécoslovaquie bien au-delà de 56. Et donc, la société commence à se mettre en mouvement. Et donc, ce n'est plus seulement le parti qui dit « nous allons réformer ceci et cela », c'est la société qui est en train de s'auto-organiser.
Et qui soutient évidemment ardemment Dubček quand il prend les premières mesures donc de libéralisation du régime au début du printemps 1968.
Voru komunistické strany Československa, soudruh Alexander Dubček.
Významnou úlohu v rozvoji společenské aktivity.
Les médias ont joué un rôle important ces dernières semaines dans l'évolution de la société. Grâce à leur travail, la majorité de la population s'est intéressée aux événements actuels. On n'avait pas vu depuis longtemps un tel intérêt pour notre politique intérieure. Jan Prochaska, écrivain. On me demande si l'on a pris des mesures contre la censure.
Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá.
Mes amis, la censure a cessé d'exister. Hurra.
C'était l'atmosphère à Prague il y a 40 ans, 1968, au début des réformes entreprises par Dubček et le président de la République, Alexandre Svoboda, dont le nom était acclamé d'autant plus d'ailleurs qu'il signifie liberté, je crois, Jakobnik. Et alors ces réformes, comment peut-on les résumer ? Il y a eu un programme qui a été rédigé par le parti le 3 avril 1968 où l'on parle de voie tchécoslovaque vers le socialisme. On parlait aussi de socialisme à visage humain.
Socialisme à visage humain, ça c'était le slogan. La voie tchécoslovaque, résumée dans le programme d'avril du Parti communiste, proposait d'abord de mettre un terme à l'omnipotence des appareils de sécurité. Il faut savoir que le système communiste, le noyau du système communiste, était l'appareil policier. Et donc l'imbrication du parti de l'appareil de sécurité. Ça, c'était la première chose. Mettre au pas, mettre sous contrôle les appareils de sécurité, séparer le parti et de l'État, comme je l'ai dit. Le parti n'est pas là pour gérer toute la société. Il faut que la société s'autogère. Il y avait l'idée d'autogestion, d'ailleurs.
Oui, mais il n'y a pas, à aucun moment, contrairement à ce qui s'est passé en Hongrie, le pluralisme décrété. On n'autorise pas les partis. En tout cas, le Parti communiste garde, au fond, la primauté sur le pouvoir.
Voilà. Alors, c'est là où est la limite et où est la contradiction. Parce qu'on reconnaît le pluralisme de la société, on veut institutionnaliser ce pluralisme en disant il faut maintenant une assemblée où il y aura des représentants du mouvement des femmes, des syndicats, des différentes associations, des différentes forces sociales, mais pas de pluralisme politique. Lorsque le Parti social-démocrate veut se reconstituer, il a été interdit en 1948, il a été fusionné de force avec le Parti communiste. Non, là on dit il ne faut pas aller au-delà, on ne veut pas rétablir le pluripartisme. Et c'est là que commence, aux yeux de la société tchèque, la contradiction. D'un côté, un parti communiste qui veut ouvrir, abolir la censure et reconnaître le pluralisme, démocratisation, mais non pas démocratie. Et la société, elle pousse la démocratisation dans le sens du rétablissement de la démocratie. Et cette contradiction va s'accentuer tout au long du printemps jusqu'à l'été. Et la réponse à cette question, ce n'est pas Dubček qui la porte. Ça sera Brejnev avec les tanks le 21 août 68.
Alors ce sera Brejnev, ce sont également les pays du pacte de Varsovie, qui, c'est-à-dire les alliés de Moscou, sauf un d'ailleurs, qui va soutenir l'expérience tchécoslovaque. C'est assez étonnant parce que son dirigeant, c'était M. Ceausescu, c'était la Roumanie qui sera le seul pays de l'Est, du pacte de Varsovie, il y aura également Yougoslavie de Tito, à soutenir l'expérience tchécoslovaque. Mais
Ceausescu ne soutient pas le printemps de Prague et les réformes, il soutient le droit du Parti communiste tchécoslovaque à décider de son propre sort. D'accord. Sous-entendu,
Moi aussi,
j'ai le droit de faire chez moi ce qui me regarde.
En tout cas, il y a des manœuvres du pacte de Varsovie qui se déroulent en Tchécoslovaquie à partir du 18 juin. Et là, il y a un manifeste qui va inquiéter encore plus Moscou et ses alliés, en tout cas les dirigeants des pays communistes. Ce manifeste dit des 2000 mots, publié dans une revue qui s'appelle Literarni Listi, dit que les signataires soutiendront les réformes de Dubček, même par les armes. Alors là, évidemment, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé en Hongrie. Ça fait peur au pays du pacte de Varsovie, qui se réunit, c'est le 14 juillet, qui envoie carrément un ultimatum à Prague.
C'est vrai que le manifeste des 2000 mots, c'est un peu le pendant de la société civile face au programme d'action du Parti communiste. Le programme de réforme du Parti communiste veut réformer le système communiste, mais avec le maintien du rôle dirigeant du Parti communiste. Les 2000 mots, en gros, disent « Nous voulons la démocratie, et si elle est menacée par nos alliés du bloc soviétique, il faut leur dire qu'on est prêt à se défendre. Donc la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Vous devez savoir que si vous allez nous occuper, vous aurez un prix à payer. » Et donc c'est un soutien à Dubček, mais un soutien très embarrassant, puisque, bien sûr, Brejnev brandit à Dubček le manifeste des 2000 mots et il verra comme seule réponse l'envoi de 2000 tanks.
Et il prépare en effet une opération militaire, l'opération Danube, l'invasion de la Tchécoslovaquie par 24 divisions du pacte de Varsovie, annoncée le 21 août 1968 par la radio de Prague avant qu'elle tombe entre les mains des soviétiques.
La venue Vinohradská est déjà remplie de chars. Du toit de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essaient de placer des barricades pour couper l'accès de la radio aux envahisseurs. On entend un échange de coups de feu dans l'avenue. Soldat, tu es communiste. Rentre chez toi. Regarde ce que tu as fait de notre Prague. Barbares, Gestapo.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy. Po slové noci, která dozad bodá dýku,
tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbesné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlí.
Vous voilà, frères de Caïn qui poignardent dans le dos, vous voilà nos frères, petits-fils de Staline, dans notre beau pays, vous avez assassiné la foi. C'est une chanson qui a été écrite au lendemain de l'invasion soviétique, très émouvante, avec en plus ces voix qu'on a entendues de Tchèques qui se manifestent dans la rue contre des chars, ils sont sans armes et qui s'adressent aux soldats soviétiques ou hongrois ou polonais en leur disant, en leur demandant, essayant de les convaincre de rentrer chez eux, parfois en les insultant, Gestapo, etc. C'est terrible cette façon, enfin, assez pacifique qu'ont eu les Tchèques d'essayer de résister, car ils l'ont fait, à cette invasion.
Oui, c'était une résistance non violente, mais d'une grande efficacité. Donc, à la différence de Budapest, où on a affaire à une insurrection, et
beaucoup d'ailleurs, plus sanglante, la répression était beaucoup plus violente.
Oui, il y a eu deux occupations, puisqu'il y a eu, en octobre, une première intervention militaire par les troupes de l'armée rouge, qui provoque, alors qu'il
là, vous parlez de la Hongrie,
Budapest, et qui provoque une deuxième phase de l'insurrection armée qui nécessite de la part de Moscou une deuxième intervention. Alors qu'à Prague, il y a 12 ans plus tard, il y a l'occupation dans la nuit du 20 au 21 août par l'armée rouge et par les alliés donc, du pacte de Varsovie, l'armée polonaise, hongroise, est-allemande, bulgare, etc., participent à cette opération. Et ils occupent le pays sans que l'armée tchécoslovaque ne s'y oppose. Donc on a, elle ne s'y oppose pas parce qu'elle n'a pas reçu le feu vert du Parti communiste, de la direction Dubčekienne pour le faire. Et donc la population se lance avec les seuls moyens qu'elle a à sa disposition, c'est-à-dire la résistance pacifique, dans une forme de désorientation. Tous les panneaux dans les rues ont été enlevés. Les soldats russes sont, dans leurs tanks ont été assiégés. Et au bout de quelques jours, les Russes ont dû faire une relève des troupes parce que les troupes étaient totalement démoralisées, les troupes qui étaient arrivées dans les premiers jours. On leur avait dit « Vous allez affronter les Allemands. Les Allemands sont à Prague, etc. Vous êtes là pour défendre les conquêtes de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. » Ils arrivent dans un pays absolument pacifique où ils trouvent des gens dans la rue qui disent « Mais qu'est-ce que vous venez faire là ? Rentrez chez vous. » Et donc, il y a là, c'est assez poignant, mais cela fait que le régime d'occupation n'arrive pas dans les premiers temps, non seulement militairement à conquérir les populations, mais il n'arrive pas politiquement à imposer sa volonté. Parce qu'ils arrivent dans la nuit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent dans la nuit l'équipe Dubček réunie, le bureau politique est réuni, et on leur apprend dans la nuit que les Russes arrivent. Les Soviétiques pensent à ce moment-là avoir un gouvernement ouvrier et paysan de rechange, quelques collaborateurs qu'on va trouver. Eh bien, ça n'a pas marché. À la dernière minute, certains se sont désistés et les Soviétiques arrêtent Dubček et son équipe qui les attendent passivement dans le secrétariat général du parti et les amènent comme otages en Union soviétique. Et il n'y a plus de gouvernement à Prague, ni de gouvernement de collaboration puisqu'on n'arrive pas à le mettre en place. Et le gouvernement légitime de l'époque est emmené prisonnier à Moscou.
Alors si bien que justement après avoir arrêté Dubček, ils le font venir à Moscou et ils le font, ils négocient avec lui ce qu'on appelle les accords de Moscou le 26 août qui en fait sont une véritable capitulation de Dubček qui rentre à Prague donc juste après la signature de cet accord. France Inter, Jean-Armand Ladidi, le 28 août 1968.
De quoi demain sera-t-il fait? Interrogation hugolienne, lourde question que se posent les Tchécoslovaques, lourde question que se pose pour eux le monde libre. Toujours est-il que Dubček, de retour à Prague, a lancé un appel dramatique à ses compatriotes. Il faut comprendre, a-t-il dit, que tout ne dépend pas de nous seuls. Il faut éviter à tout prix toute effusion de sang.
Prosím vás všetkých, drahí moji spoluobčania, Čechovi Slovákov, komunistov,
je vous en prie, mes chers concitoyens, tchèques, slovaques, communistes et membres des autres partis politiques du Front National. Je vous en prie, ouvriers, agriculteurs, intellectuels, restons unis, calmes et modérés.
hlavně rozvážný. Pochopme.
Seule notre fidélité au socialisme, notre honnêteté et notre force de caractère seront les garanties de notre avenir.
A charaktere je záruka cesty.
La chanson du printemps de Prague écrasée en août donc par les chars soviétiques et avec Dubček qui demande à la population, parce que ça ne servirait à rien, de ne pas s'opposer en armes aux envahisseurs. C'est aussi parce que la Tchécoslovaquie, le printemps de Prague, a été abandonné. On l'a vu, bien sûr, par les pays du pacte de Varsovie, qui se sont tous presque, qui ont suivi Moscou dans la répression, mais même par les pays occidentaux. Le président américain Johnson parle d'un simple accident de parcours. Et personne n'intervient autrement que par des protestations contre cette invasion.
Oui, il y a peu de protestations. Enfin, il y a des protestations. Il y a une indignation dans l'opinion publique, des classes politiques, etc. Mais fondamentalement, il ne se passe pas grand-chose. La formule « l'incident de parcours », c'était Michel Debré, en fait, qui avait utilisé cette formule. Il ne fallait pas, pour les Américains comme pour les Européens de l'Ouest.
Johnson l'a utilisé aussi, je crois.
Il ne fallait pas que le printemps de Prague et l'échec du printemps de Prague compromettent ce qui était à leurs yeux l'essentiel, c'est-à-dire les débuts de la détente.
Oui.
Et donc, il y avait les accords sur le désarmement entre les Américains et les Russes. Il y avait la détente qui se dessinait en Europe. Et donc, la nouvelle détente qu'on va voir après le printemps de Prague, c'est une détente qui s'impose sur la confirmation du statu quo de 1945.
Et puis, il y avait la guerre du Vietnam aussi, pour ce qui concerne les Américains. Il faut rappeler quand même que certains partis communistes occidentaux, loin des chars russes, ont protesté, y compris le Parti communiste français, Jacques Rupnik. Mais est-ce qu'on peut pas dire que
réprobation, mais non pas condamnation.
En tout cas, c'est la première fois qu'il se désolent vraiment de la politique de Moscou. Est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé en 89 avec la révolution de velours, dans laquelle on reverra Dubček réapparaître, a été à l'origine de ça, a été 1968?
Je dirais que l'héritage du printemps de Prague, c'est pas 89. C'est la perestroïka de Gorbatchev, celui qui s'est véritablement inspiré du programme Dubček. Dubček peut véritablement réclamer le copyright sur tout le programme de Gorbatchev. Glasnost, perestroïka, c'est exactement ce qu'il avait fait 20 ans avant lui. Donc, en ce sens-là, les bouleversements dans le bloc soviétique, c'est Moscou qui a changé. C'est Moscou qui adoptait le programme du printemps de Prague et par là permettait l'avènement de la liberté en Europe centrale et orientale, y compris à Prague. Mais évidemment, à Prague, c'était l'anti-68, c'était 89, vers la démocratie et non plus la réforme du socialisme.
Merci Jacques Rupnik. Je rappelle que vous avez dirigé avec François Fechteux 1968, le printemps tchécoslovaque qui vient d'être réédité en poche aux éditions Complexe. Vous êtes également l'auteur du livre « Les banlieues de l'Europe » publié l'an dernier aux presses de Sciences Po. À lire également « Prague, belle époque » de Bernard Michel, édité chez Aubier dans la collection historique. Vous avez pu entendre des archives issues du documentaire « Le gel du printemps de Prague » de Patrick Rockman et Virginie Linhart, diffusé sur France 3 dans la série « Les brûlures de l'histoire » et récemment rediffusée sur la chaîne publique Sénat. À voir aussi sur l'année 68 et les mouvements de contestation dans le monde et en Tchécoslovaquie notamment, un autre documentaire de Patrick Rothman, 68, édité en DVD aux éditions France Télévisions Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmaz et Julien Dumont, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillery et Élise Médétournion, une réalisation de Anne Kobilac.